RFI 7h30, à Paris 6h30, à Dakar.
RFI Matin.
L'actualité africaine avec Nemo en piste. Il y a un an, Bassirou Diomaye Faye remportait la présidentielle sénégalaise.
L'occasion d'un premier bilan, où en sont les audits lancés, ou encore la promesse de la lutte contre la corruption. Certains analystes évoquent de la lenteur dans les décisions du gouvernement, qui doit faire face à une dette qui atteint près de 100% du PIB. L'opposition et la société civile togolaise, toujours déterminée à revenir à l'ancien modèle constitutionnel, près d'un an après la promulgation du nouveau texte. Elles étaient rassemblées hier à Lomé. Les maigres espoirs des avocats des victimes des massacres du 28 septembre 2009 en Guinée, 8 mois après le verdict et les 19 milliards de francs promis. Toujours pas d'indemnisation. La chaîne malienne Djoliba TV va-t-elle de nouveau émettre avant le 26 mai prochain, date de fin de sa suspension? Ses équipes en doutent et préparent l'avenir alors que les négociations sont au point mort. Et puis, un premier signe d'apaisement entre Alger et Paris après la prise de parole d'Abdelmadjid Tebboune. Analyse d'un chercheur dans ce journal.
C'était il y a un an, jour pour jour, l'histoire politique sénégalaise basculait.
Le 24 mars 2024, Bassirou Diomaye Faye était élu à la tête du pays. Au premier tour, une première pour un candidat de l'opposition. En tout, ce sont 54% des votants qui ont fait confiance au projet du PASTEF d'Ousmane Sonko, devenu Premier ministre. Le candidat du pouvoir sortant, Amadou Ba, avait lui récolté 35% des suffrages exprimés. Et avec l'arrivée d'un nouveau président, la promesse d'une rupture systémique, celle également de construire un Sénégal nouveau après 12 ans de Macky Sall. Ce matin, on tente de tirer le bilan de cette première année de mandat avec Léa-Lisa Westerhoff à Dakar.
Élu avec la promesse de lutter contre la corruption et le détournement des deniers publics, la nouvelle équipe au pouvoir a très vite lancé une série d'audits. Même si certains, comme ceux sur les contrats miniers et pétroliers, tardent à donner des résultats, l'audit des finances publiques sur les 5 dernières années représente un marqueur de la bonne gouvernance et un symbole de la transparence revendiquée par les nouvelles autorités. Dans la même veine, 2 institutions jugées trop budgétivores ont également été supprimées. Des assises de la justice avec la société civile ont été organisées dans une démarche qui se veut participative. Mais un an après être arrivé au pouvoir, les analystes pointent aussi une certaine lenteur dans les prises de décision du gouvernement. Les recommandations des assises de la justice, par exemple, n'ont pas encore été appliquées. Après 12 mois au pouvoir, le duo Diomaye Sonko fait aussi l'expérience de la difficulté de financer des réformes avec des comptes publics dans le rouge, hérités de l'administration précédente. Avec une dette qui s'élève à près de 100% du PIB, les nouvelles autorités disposent pour l'heure d'une marge de manœuvre extrêmement limitée pour imprimer la rupture promise lors de l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Léa-Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Léa-Lisa Westerhoff que vous retrouvez dans une demi-heure. Elle consacre le dossier du journal de 8h, heure de Paris, à cette année de pouvoir de Bassirou Diomaye Faye.
Et juste après ce journal, notre invité Aïb Dafé, secrétaire général du PASTEF, le parti au pouvoir, également député et chef du groupe parlementaire. Il sera au micro de Christophe Boisbouvier.
L'opposition togolaise réunie à Akassimé ce dimanche dans le centre-ville de Lomé. Elle maintient son cap et reste vent debout contre la nouvelle constitution promulguée il y a près d'un an maintenant et qui a fait passer le pays dans un régime parlementaire. Retour sur cette contestation depuis la capitale avec notre correspondant Peter Sassou Dogbé.
C'est d'abord le professeur David Dosset, porte-parole du Front citoyen Togo Debout, qui a pris la parole.
Nous avons voulu aujourd'hui, dans une nouvelle démarche, rencontrer les populations, discuter avec le peuple togolais et réaffirmer notre résistance farouche face à cette forfaiture.
Ensuite, le leader des Forces démocratiques pour la République, Paul Dodia Pévon.
Je voudrais vous rappeler que la lutte que nous engageons avec la peur, nous ne pouvons pas le faire. Mais pendant que la peur nous tient, où va le Togo? C'est la question qu'il faut se poser. Où va le Togo? Ils sont en train de couler le pays. Le Togo s'effondre petit à petit. Nous ne le voyons pas.
Et puis Jean-Pierre Fabre, de l'Alliance nationale pour le changement, d'ajouter.
En réalité, nous sommes en présence d'une constitution qui institutionnalise une dictature personnelle et militaire déguisée.
Un peu plus de 2 heures d'échange devant une population acquise à leur cause. Les politiques présents espèrent pouvoir un jour revenir à l'ancienne constitution avec un régime présidentiel élu au suffrage universel direct. Peter Sassou Dogbé, Lomé, RFI.
En Guinée, cela fait 8 mois que le verdict est tombé dans le procès dit des massacres du 28 septembre 2009.
8 mois et des victimes toujours en attente de leur indemnisation. La justice guinéenne avait pourtant promis plus de 19 milliards de francs en faveur des centaines de victimes. Parmi elles, beaucoup sont décédées, d'autres sont marquées à vie par des blessures physiques ou psychologiques. Ce lundi, maître Alpha Amadou Diesba, l'un des avocats, demande le réveil des autorités.
Ça fait 8 mois que le verdict a été rendu. Malheureusement, nous n'avons pas à date obtenu une quelconque réparation parce que la plupart des personnes qui ont été condamnées sont pauvres. Celles qui ont les moyens, on n'a pas pu retrouver leurs biens. Donc, on n'a pas pu mettre en œuvre la procédure d'exécution de la décision qui a été rendue. C'est vrai, la décision n'a de valeur que si elle est exécutée. On ne peut pas dire qu'on a un grand espoir puisque l'État traîne les pas. À l'ouverture du procès, on nous avait parlé d'un montant de 19 milliards. On ne sait pas qu'est-ce que ce montant est devenu. Donc, on ne peut pas aujourd'hui être totalement pessimiste, mais on est mesuré dans l'optimisme que nous devons avoir. Donc, cette question de réparation incombe en premier lieu au gouvernement guinéen, même si des personnes ont été condamnées. Et c'est de sa responsabilité d'indemniser les victimes.
Maître Alpha Amadou Diesba avec Mouktar Ba à Conakry.
Au Mali, les négociations autour du retour de Joliba TV complètement à l'arrêt.
La chaîne avait cessé, pour rappel, d'émettre fin novembre dernier après la diffusion d'un débat pendant lequel la véracité d'un supposé coup d'État déjoué au Burkina Faso voisin avait été mise en doute. C'est suite à cela que la HAC, la haute autorité de la communication, avait retiré la licence de la chaîne, mais la pression mise principalement par la maison de la presse avait permis de la rétablir. L'institution avait dénoncé une atteinte à la liberté d'expression, mais une suspension de 6 mois avait toutefois été maintenue. Depuis, Joliba TV et la maison de la presse tentent toujours d'obtenir une réduction de cette sanction. David Bachet.
Le dernier acte débute le 16 janvier, lorsque Joliba TV écrit à l'autorité malienne de régulation. Ils estimaient que nos excuses n'étaient pas sincères, explique un pilier de la rédaction. Donc nous nous sommes excusés plus clairement. Ça ne nous plaisait pas, poursuit un cadre de Joliba. Nous n'avons commis aucune faute, mais c'était pour sauver la boîte. Peine perdue, mi-février, la HAC maintient la suspension de 6 mois. Depuis, plus rien. Il ne reste que 2 mois et demi, on ne pourra plus rien changer, se résigne un journaliste phare de la chaîne. On ne négocie pas la liberté, déplore un autre journaliste. J'aurais voulu qu'on organise des rassemblements, des journées sans presse au Mali. En novembre, à l'annonce de la suspension de Joliba TV, la maison de la presse qui rassemble les organisations de journalistes du pays avait menacé d'une mobilisation nationale. C'était pour le rétablissement de la licence, explique un responsable de la maison de la presse. Après, pour la réduction de la suspension, nous avons privilégié le dialogue. En tout état de cause, les journalistes de Joliba saluent l'accompagnement tenace de la maison de la presse et la solidarité des confrères maliens. Et regardent désormais vers la reprise, le 26 mai. « Nous allons rebondir », promet un journaliste phare de Joliba TV, « et continuer de faire notre métier sans être les lèche-bottes de personne. »
Explication de David Bachet. Rappelons que l'auteur des propos qui ont provoqué la suspension de la chaîne, Issa Kaounjim, a été condamné en décembre dernier à 2 ans de prison, dont un ferme. Il avait osé douter donc de la réalité de ce que la télévision d'État burkinabé avait présenté comme une tentative de coup d'État déjoué.
RFI, 7h38 à Paris et Alger. Après plusieurs jours, plusieurs semaines sous haute tension, l'Algérie joue la carte de l'apaisement face à la France.
Samedi soir, le président Abdelmadjid Tebboune a déclaré que son unique point de repère était son homologue Emmanuel Macron. Jamais il n'a cité Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, et a soutenu que si tension diplomatique il y avait, elle devait être réglée entre chefs de la diplomatie. Sur ce malaise franco-algérien, je vous propose d'écouter Brahim Oumansour, chercheur à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Pour lui, le respect mutuel entre les deux et le retour à la diplomatie de haut niveau sont essentiels.
Il y a un signe, en tout cas, d'ouverture vers le dialogue et un appel surtout à discuter, à traiter cette crise que je considère la plus grave entre les deux pays via les canaux diplomatiques. Et je crois que c'est ça peut-être la condition qui a été fixée par le président algérien pour éviter le pire, éviter une rupture qui n'est pas souhaitable des deux côtés de la Méditerranée dans un environnement très instable et marqué par des tensions entre Alger et Rabat et puis l'instabilité au Sahel. Mais il y a aussi des enjeux sécuritaires au niveau de la Méditerranée, trafic de drogue, terrorisme. Tous ces enjeux communs imposent aux deux pays de maintenir une coopération, de dépasser les tensions. tous ces différents sujets imposent bien évidemment à ces deux États de poursuivre le dialogue avec le respect mutuel.
Brahim Mansour avec Guillaume Thibault. J'ajoute que la porte-parole du gouvernement, Sophie Prima, salue la déclaration du président algérien. Il faut donc sortir de cette affaire par le dialogue. J'ai entendu que le président Tebboune avait fait un petit signe vis-à-vis d'Emmanuel Macron. C'est très bien, voilà une façon de renouer le dialogue et d'échanger sur les sujets qui sont des sujets sensibles entre deux présidents. C'est un bon signal, a-t-elle déclaré.
Le dossier de ce journal, Nemo, c'est en Afrique du Sud.
Il est consacré aux recherches en génomique humaine effectuées sur le continent. Alors que ce mois-ci, à Durban, s'est tenu un sommet de l'organisation du génome humain, une première en Afrique. Signe de développement, même si à l'heure actuelle, moins de 2% du génome humain répertorié provient de personnes africaines, ce qui représente forcément un gap profond dans les connaissances scientifiques. Pourtant, ces recherches peuvent être primordiales. Ada Amoche est généticienne, pédiatre et présidente de l'Organisation du génome humain.
Il y a en effet le fardeau du VIH ou encore de la tuberculose résistante. Ce sont d'énormes problèmes qui touchent de larges portions de la population. Tout le monde reconnaît que ce sont de gros défis. Mais il y a aussi les maladies chroniques. Si les gens vivent assez longtemps, ils vont développer des maladies cardiaques ou du diabète. Elles ont des causes environnementales. Le fait de manger certains types de nourriture, de ne pas faire d'exercice, de rester sur une chaise toute la journée, ce n'est bon pour personne. Cependant, elles ont aussi des causes génétiques. Et par exemple, les maladies rénales sont beaucoup plus communes au sein de certaines sections de la population africaine. Nous commençons à comprendre pourquoi, et l'étape suivante, c'est de trouver comment traiter et prévenir cette maladie. Mais si on ne séquence pas, on ne peut pas en déduire les raisons. De plus, ce qui est sûr pour l'Afrique et qui a été mis en place dans certains pays, c'est qu'avoir des capacités de séquençage dans différentes régions permet aussi de réaliser du séquençage rapide d'agents pathogènes. Si une nouvelle maladie se développe, cela permet de comprendre de quoi il s'agit ou quel est le virus en cause. C'est essentiel et on a pu le voir pendant la période du Covid.
La généticienne Ada Amoche, également présidente de l'Organisation du génome humain. Le partage des données est donc jugé vital par nombre de professionnels du secteur pour faire progresser la recherche mondiale. Mais ces avancées peuvent parfois amener de la méfiance auprès de populations qui peuvent se sentir utilisées, notamment alors qu'existe un intérêt commercial croissant derrière les découvertes génétiques. Claire Bargelès, cela soulève donc inévitablement des questions éthiques.
Selon la généticienne sud-africaine Michelle Ramsey, la vulgarisation des travaux de génomique est clé pour qu'ils ne soient pas manipulés et instrumentalisés dans des discours racistes.
La notion d'humanité commune est pour moi centrale. Nous avons davantage de choses en commun que des choses qui nous différencient et il faut bien faire entendre ce message. Je pense que la communication scientifique est une clé.
Et la communication doit aussi se faire pour expliquer les études aux participants. Il faut également protéger un maximum la confidentialité. Déborah Ekusai-Sebata est chercheuse en bioéthique à l'université ougandaise de Makerere.
Ces données peuvent avoir des conséquences sociales comme une stigmatisation si jamais il y a une violation de la confidentialité.
La communauté SAN en Afrique du Sud a par exemple rédigé un code éthique pour ceux qui souhaitent mener des recherches auprès d'elle. Les choses changent peu à peu, mais la chercheuse angolaise Maria Chimpolo regrette toujours de voir des scientifiques de pays occidentaux mener des recherches dites hélicoptères sans développer des compétences sur place.
Ils viennent, collectent les échantillons, repartent et publient. C'est tout. Fin de l'histoire. La plupart du temps, il n'y a pas de reconnaissance pour les chercheurs locaux impliqués et même les communautés qui leur fournissent les échantillons n'en tirent aucun bénéfice.
En 2019, une controverse avait poussé un institut de recherche britannique à abandonner la commercialisation d'une puce à ADN créée sans permission à partir de données recueillies en Afrique. Claire Bargelès, de retour de Durban, RFI.
Claire Bargelès qui signe le dossier de ce journal. Il est à retrouver sur RFI.fr.
Merci Nemo Rampis.